Europe 1. Sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Vôtre. C'est toujours un plaisir de passer l'après-midi avec vous et en compagnie de cet être délicieux, ce puits de science qu'on appelle Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, j'aimerais bien vous retourner le compliment, mais je montrais mal. Je vous propose donc qu'on passe directement au sommaire, un sommaire 100% féminin aujourd'hui.
Je suis toutes les femmes.
Des femmes qu'on met très souvent à l'honneur dans Historiquement Vôtre et aujourd'hui encore avec trois dames qui tiennent la barre. Non, je vous en prie Stéphane, ne soyez pas graveleux et encore moins aujourd'hui. Beaucoup de femmes nous écoutent, vous savez.
Nana Mouchkouri.
Oui, entre autres Stéphane.
Et justement, sans Nana, mais c'est en Grèce que l'on part. Avec celle qui tient la barre de son embarcation. La reine Artémise à la tête d'un vaisseau de guerre en pleine bataille de Salamine. Une présence sur le champ de bataille qui était pour certains un terrible affront. Puis elle aussi, elle a tenu la barre pour venir plaider. Elle fut même la première. Je vous raconte l'avocate Jeanne Chauvin qui a eu bien du mal à porter la robe, vous verrez. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'une championne olympique qui tient aussi la barre, mais en gymnastique.
Ah, c'est simple, c'est la meilleure gymnaste de tous les temps, l'américaine Simone Biles. Son destin est fascinant car vous allez voir qu'elle partait de très très loin. Je vous demanderai d'ores et déjà de vous échauffer car j'ai prévu un petit happening cheval d'arçon qui à mon avis sera assez sympa. Mais d'abord, présentons les forces en présence en commençant par celle qui est évidemment à l'honneur aujourd'hui. Elle est la seule femme de cette émission, mais quelle femme!
C'est une créature qui ne vit que pour l'amour. Oui. Belle, capricieuse, insouciante et innocemment perverse.
Oui, bonjour Clémentine Portier-Gazette-Lac.
Comme ça vous connaissez bien, Stéphane. Bonjour à tous. Dites donc, autour de cette table, les garçons, savez-vous qui était France Gourgi?
Oui. Non, mais on attend de savoir.
Oh, bah c'est Françoise Giroud.
Ah, Françoise Giroud.
Bah, il le sait en plus, oui. Stéphane. Alors moi, je vais vous parler d'elle.
Il a des absences.
Elle a été quand même l'une des plus grandes journalistes françaises. Elle a été à la barre du magazine L'Express pendant des années. Et elle fut surtout la première française à diriger un groupe de presse. Et puis, elle a eu aussi un secrétariat d'État, la condition féminine. Elle cadre totalement avec notre thématique du jour. Bon, tenez-vous à carreau. Hein. Faites-moi plaisir aujourd'hui. Soyez polis, soyez doux, soyez poétiques, soyez chevaleresques.
Alors, on va voir si eux aussi sont dans les clous de la thématique du jour.
Voyons
avec
voir.
Nous, David Castel-Lopez, qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien.
Oui, là, pour le coup, c'est vraiment totalement notre quotidien. C'est la roue.
La roue?
La roue, hein, qui a inventé la roue?
Une femme.
Peut-être.
La roue.
La roue pour rouler, pour faire un chariot, une voiture,
etc. Laquelle autre roue vous pouvez penser? Non, parce
que la roue des hamsters, la roue des...
Ou la roue pour tuer les gens avec des bâtons pour rouler les gens.
C'est celle que préfère Stéphane. Le supplice de la roue.
Exactement. Non, c'est pas
celle-là. Quand on dit roue, vous pensez tout de suite au supplice de la roue, avant les roues des voitures.
Oui, ça s'appelle un pneu.
Oui. Comment ça s'appelle un pneu?
Oui, une roue de voiture, ça s'appelle un pneu, Mathieu.
Non, on n'est pas une roue.
Non, mais par exemple, le pneu, c'est vraiment ce qui est en contact avec la roue.
C'est la chose que vous pouvez changer.
Mais non, il y a la jante et il y a la roue.
Oui, c'est vrai.
La jante, Stéphane.
Par exemple, une charrette n'a pas de pneu et elle a des roues.
Elle a des roues quand même.
Je ne roule plus en charrette depuis fort longtemps.
Pardon, mais je
croyais.
Olivier Pouls est avec
mal,
nous.
Hein, bon. Alors, Olivier Pouls remonte aux origines d'un plat, d'un breuvage, d'une recette.
Et je vais vous parler aujourd'hui du vin de paille. On a parlé du vin jaune il y a quelques semaines. On les confond souvent, tous les deux. Mais ça n'a strictement rien à voir. Donc, qu'est-ce que le vin de paille? Où le produit-on et depuis quand?
C'est aussi dans le Jura.
Il y en a un peu dans le Jura, mais il n'y a pas que dans le Jura qu'on fait du vin de paille.
Enfin, il y aura un quiz spécial roux. Je pense qu'on va faire un quiz spécial roux. Vous allez vous voter. La victoire est d'ores et déjà promise à
la
Clémentine.
La victoire, j'entends alors.
Clémentine Portier-Kaltenbach.
Je vais la laisser gagner aujourd'hui.
Oui,
quelle élégance.
C'est ce qu'on dit, ça.
Mais tout de suite, découvrons notre premier personnage du jour.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Direction la Grèce.
Ah, j'adore.
Oui, on sait Stéphane, on sait, mais une Grèce plus agitée que celle que vous connaissez, plus antique aussi, à la rencontre d'une reine à la barre d'un navire, d'une femme de pouvoir qui a montré à ceux qui en doutaient qu'une femme pouvait en avoir du pouvoir. Stéphane Bern avale un mer calme et nous raconte Artémise.
Voilà déjà plusieurs heures que la bataille fait rage dans le détroit de Salamine. Les Perses qui pensaient avoir l'avantage sont tombés dans le piège grec. Leurs lourdes embarcations sont bloquées. à la barre de son navire, la reine Artémise, engagée auprès du roi perse Xerxès Ier, voit fondre sur elle un bateau ennemi. Alors, au dernier moment, elle vire de bord brusquement et commet un acte totalement inattendu qui va la faire entrer dans l'histoire. Il est parfois difficile, lorsqu'on parle de la Grèce antique, de distinguer le vrai du faux, de séparer le bon grain de l'ivraie et l'histoire du mythe. Les informations sur la vie d'Artémise proviennent d'une seule source, l'un des premiers grands historiens, Hérodote, natif comme elle, mais à une génération d'écart, de la cité d'Halicarnasse, dans cette région d'Anatolie qui se trouve aujourd'hui en Turquie. Halicarnasse, vous savez, c'est l'actuel Bodrum. Artémise, avec un E, à ne pas confondre avec Artémis, la déesse de la chasse et de la nature sauvage, est née aux alentours de 520 avant Jésus-Christ. Halicarnasse est alors la capitale d'un petit royaume que dirige la dynastie des Lygdamides. L'histoire n'a visiblement pas retenu le nom de son époux, mais c'est sans doute à sa mort qu'Artémise se retrouve sur le trône. Artémise est donc reine, ou plus précisément, elle est dynaste. Oui, Artémise est la souveraine d'une cité grecque placée sous la dépendance d'un état plus puissant, l'empire perse des Achéménides. Cet empire, dont le cœur correspond plus ou moins à l'Iran actuel, étend alors son emprise sur toute une partie de la Méditerranée. Il faut comprendre que les Grecs d'Asie mineure se battent alors régulièrement contre les Grecs d'Europe. Au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, les guerres médiques opposent l'empire perse aux cités-états grecques. La Grèce antique comprend en effet plusieurs cités avec leurs propres règles, qui se battent parfois, vous savez, comme Athènes et Sparte un peu plus tard dans la célèbre guerre du Péloponnèse. Mais les Grecs fondent aussi des colonies partout autour de la Méditerranée et jusqu'en Inde, et ils savent se mobiliser pour se protéger contre les envahisseurs comme les Perses. Les guerres médiques voient donc les Grecs résister aux tentatives de conquête du grand roi achéménide Xerxès Ier, venu punir Athènes d'avoir soutenu des révoltes anti-perses en Grèce d'Asie mineure. Après plusieurs affrontements, Xerxès veut en finir avec les Grecs. L'affrontement prend donc la forme d'un gigantesque combat naval. Il a lieu en 480 avant notre ère à Salamine, ou plus exactement dans le détroit entre l'île de Salamine et le continent, non loin du port du Pirée. C'est d'ailleurs depuis le continent que le grand roi observe la bataille, confortablement assis sur un trône installé sur la rive. Xerxès couvre sa flotte d'un regard confiant et satisfait. Les Perses sont beaucoup plus nombreux. Ils comptent environ 1 000 000 de navires quand les Grecs n'en ont pas la moitié. Mais la stratégie de Thémistocle, qui dirige cette flotte réduite, fonctionne. Il a mené les Perses à s'engager plus avant dans le détroit. Dans cet espace réduit, les lourds bateaux perses peinent à manœuvrer. Ils se heurtent les uns aux autres, se gênent et s'éperonnent de leur terrible rostre, la pointe située à la proue de leur navire. Bientôt, les dégâts sont dramatiques. Dans ce contexte, les Grecs ont un avantage, leur trière. Ces bateaux légers que 3 rangs de rameurs font avancer sont bien plus maniables. La reine Artémise est donc engagée aux côtés des Perses. Bientôt, le bateau qu'elle dirige est poursuivi par un navire grec. Il est de plus en plus proche. Artémise voit venir sa fin et celle de son équipage. Et pourtant, au dernier instant, le capitaine a une idée brillante. Elle change de cap et fonce sur le navire qui file à ses côtés, un navire de son propre camp. L'éperon de son vaisseau vient fracasser la coque de celui qui était encore quelques minutes plus tôt son allié. La souveraine n'a pas perdu la raison. C'est là sa dernière carte en main, la seule issue possible. Et sa stratégie fonctionne. Alors que le bateau du roi Damasitimos coule, emportant avec lui tous ses hommes, le poursuivant grec d'Artémise stoppe net sa course. Il pensait avoir pris en chasse un vaisseau ennemi, mais puisque celui-ci vient en fait d'abattre un ennemi commun, c'est forcément un Athénien. Artémise a sauvé sa peau. Bon, elle a été déloyale, certes, mais pour Hérodote qui nous raconte l'histoire, elle a aussi su faire preuve d'une véritable intelligence tactique, de rapidité et de vivacité d'esprit, avec une adresse telle que son action pourrait bien être guidée par les dieux eux-mêmes. Surtout, Artémise n'a pas été identifiée. Dans la confusion générale, personne n'a compris ce qui se passait réellement. Plus incroyable encore, depuis la terre ferme, Xerxès a cru déceler un acte de bravoure. Il est persuadé qu'Artémise a coulé un bateau grec. La reine vient alors de gagner aussi l'estime du roi pour qui, comme pour le reste de l'aristocratie perse ou alliée des Perses, le fait qu'Artémise soit une femme ne semble d'ailleurs jamais poser de question. On ne peut pas en dire autant des Athéniens. Pour eux, devoir combattre une femme est une idée absolument abominable. Et si Artémise a été contrainte d'agir comme elle l'a fait, c'est aussi parce que les Grecs, avant même le jour de la bataille, avaient déjà jurer sa perte. L'historien Hérodote le révèle à la fin de son récit. Dès la nouvelle de la participation d'Artémise à la bataille de Salamine, sa tête a été mise à prix par les Athéniens. C'est déjà une preuve incontestable de son incroyable notoriété dans toute la région, mais c'est surtout le signe du sentiment qui prévaut chez les Grecs. En échange de la capture d'Artémise, les Athéniens ont prévu une récompense de 10 000 drachmes, l'équivalent de 40 kilos d'argent, une somme considérable, à la hauteur de l'horreur que ressentent les Grecs, tant ils étaient indignés qu'une femme vint faire la guerre à Athènes, écrit Hérodote. Pour eux, la présence d'une femme sur le champ de bataille semble un terrible affront. Elle renferme quelque chose d'effrayant, de monstrueux. Mais plus sûrement encore, Artémise, la chef de guerre, déstabilise les normes athéniennes, l'ordre militaire et plus largement l'ordre social tout entier. Les Athéniens excluent effectivement la femme des domaines de la guerre et du gouvernement. Seuls des barbares peuvent ainsi consentir à se soumettre à une femme. Et c'est à ce rang qu'ils relèguent Artémise. Pour eux, la reine d'Halicarnasse évoque surtout les Amazones, ces femmes combattantes entrées dans la mythologie après avoir été vaincues par Thésée. Artémise est une femme, elle vient d'Asie mineure pour affronter les Grecs aux côtés des Perses, elle leur est facilement assimilable. Et il convient, comme des Amazones autrefois, d'en triompher. Mais les Grecs n'auront pas ce plaisir. Artémise ne tombe pas entre leurs mains et continue de servir le roi Xerxès, séduit par la valeur de ses conseils stratégiques de sa vassale. Nous ne savons pas beaucoup plus de la vie d'Artémise Ière, ni même des raisons véritables qui poussèrent les Grecs à mettre sa tête à prix. Mais une chose est certaine, son exemple prouve qu'être une femme dans la Grèce antique ne condamnait pas à rester au foyer pour y filer et y tisser la laine en attendant le retour de son mari.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler d'Artémise, nous avons le plaisir d'accueillir l'historienne qui lui consacre une biographie. Bonjour Violaine Sébillotte-Cuchet.
Bonjour.
Bonjour Violaine Sébillotte-Cuchet. Vous êtes professeure d'histoire grecque ancienne à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste d'histoire des femmes et du genre, et vous venez de publier Artémise aux éditions Fayard. L'histoire d'Artémise, c'est celle d'une femme amirale, d'une femme puissante en somme. Quel regard porte-t-on sur les femmes en général dans l'Antiquité grecque ?
Dans l'Antiquité grecque, je pense qu'on porte plusieurs regards différents. Et c'est ça l'intérêt d'Artémise, c'est de montrer qu'à la fois on a un regard désapprobateur, parce qu'elle est quand même dans un rôle qui n'est pas attendu d'une femme. On a aussi un regard railleur, chez les auteurs comiques qui vont se moquer d'elle, mais en fait, en se moquant d'elle, ils se moquent aussi des hommes qu'elle a bernés, en partie dans l'épisode de Salamine, du grand roi Xerxès. On a deux autres regards qui sont très intéressants. On a un regard positif, ou en tout cas admiratif. C'est le cas de l'historien qui raconte son récit. Et puis, un regard neutre de gens qui considèrent que malgré tout, voilà, elle est à sa place, il n'y a pas grand-chose à dire.
Mais quel était le rôle que pouvaient jouer les femmes dans la sphère publique ou politique, par exemple ? Est-ce qu'elles pouvaient exercer des fonctions ? Est-ce qu'on pouvait être reine d'une cité-état de la Grèce antique ?
C'est excellent comme question, parce que Artémise, elle est vraiment reine d'une cité grecque antique. Halicarnasse, c'est une cité grecque. Ce qui veut dire qu'il existait des cités grecques dans l'Antiquité, qui était gouvernée par des régimes dynastiques dans lesquels des femmes, comme à l'époque moderne chez nous finalement, occupaient des positions de pouvoir. Et c'est ça, en cela, c'était normal. Ce qui était moins, c'est d'aller à la guerre, ça c'est autre chose. Enfin, le régime dynastique en lui-même, c'est quelque chose qui existait dans le monde grec, dans les cités grecques. En revanche, c'est vrai que nous, on a un regard sur les cités qui est plutôt celui produit par les sources athéniennes, et dans lesquelles on n'a aucune femme au pouvoir, aucune reine, aucune dynaste. Et dans ces cités-là, donc un autre régime, un régime qu'on appelle démocratique, du coup, pour le coup, les femmes sont absolument exclues du pouvoir. Mais elles peuvent avoir des fonctions publiques, dans l'espace public, celles de prêtresses comme les prêtres, autorité dans les sanctuaires, avec une vraie autorité, ou bien elles peuvent être donatrices.
Mais ni la guerre, ni le gouvernement.
Ni la guerre, ni le gouvernement, absolument.
Dans votre livre, vous expliquez que dans l'Antiquité, Artémise est une figure populaire. Qu'est-ce qu'elle incarne pour les anciens ? Comment on utilise sa figure dans les récits qu'on fait de sa vie ?
Populaire, je l'entends au sens une figure connue. C'est vraiment une figure que les gens connaissent. Il suffit de la nommer pour que les gens sachent qu'il s'agit d'Artémise.
Ils ne confondent pas avec Artémise, parce que moi j'ai cru qu'on faisait Artémise aujourd'hui quand j'ai vu le début de l'émission.
J'en sais rien. Je sais peut-être que certains...
Vous êtes déjà à la chasse, vous.
Oui, non.
Et puis en plus, c'est populaire encore à quelle époque, hein, à l'époque qui est juste le siècle qui a suivi, les deux siècles qui ont suivi probablement, mais pas. Je pense qu'elle incarne aussi quelque chose qui est le courage, la force de l'Amazone, justement. De l'Amazone qui est un modèle à la fois qui peut être négatif.
Qui inspire la crainte, le respect, mais.
Voilà, mais en même temps, qu'on combat surtout quand on est athénien.
Et malgré sa popularité dans l'Antiquité, vous expliquez que la figure d'Artémise a longtemps échappé au regard des historiens. D'ailleurs, comme beaucoup d'autres figures féminines. Pour quelle raison ? Son histoire semble aujourd'hui trop exceptionnelle pour figurer dans les livres ?
Alors aujourd'hui, ça a changé, je pense, puisque la preuve. Mais, mais effectivement, comme vous l'avez dit, je pense que l'histoire, les historiens sont intéressés aux grands hommes, sont intéressés à la guerre et au gouvernement. On vient d'en parler, elles ne sont pas présentes. Donc déjà, voilà, il faut vraiment avoir envie de s'intéresser aux femmes et d'essayer de prendre ces figures comme des figures moins exceptionnelles, mais plutôt comme révélatrices de choses qui étaient possibles, des itinéraires qui étaient possibles dans la société dans laquelle elles vivaient. Donc ça, c'est vrai que c'est une interrogation plus récente, qui est liée à l'histoire des femmes, au féminisme, donc au XXe siècle.
Quand on pense Grèce antique, c'est vrai qu'on pense aux gynécées, on pense à une certaine misogynie, enfin c'est l'image qu'on en a. Et quels sont les stéréotypes les plus tenaces sur la place des femmes dans l'Antiquité grecque, selon vous ?
Ces stéréotypes, ils sont réels, c'est-à-dire qu'ils sont issus d'une réalité de discours réel qui était produit par les Grecs, ils le disaient, ils l'entendaient, voilà. Mais dans l'enquête que je fais, j'essaye de montrer que de voir d'où ils viennent, quel type de discours, quel type de pratique, est-ce que c'est plutôt des Athéniens. Et l'enjeu, c'est aussi de ne pas mettre dans le même panier en fait tous les Grecs, toutes les cités grecques. Et je pense qu'Athènes, elle tient une place à part aussi dans notre historiographie. Et il faut la lui redonner, en tout cas arriver à pas confondre en fait ce qui est produit à Athènes ou ce qui est dans un esprit athénien et ce qui se passe ailleurs. Artémise, elle vient d'une autre cité.
Au-delà de son action pendant la bataille de Salamine dont on a parlé, on ne sait presque rien d'Artémise et pourtant vous avez réussi à lui consacrer 350 pages. En fait, est-ce que c'est moins une biographie d'Artémise qu'une enquête fouillée sur la place des femmes dans l'Antiquité grecque ? C'est ça qui vous animait ?
Oui, tout à fait. En fait, c'est effectivement à partir de ce personnage qui est quand même assez extraordinaire, l'idée c'est de voir... justement, qu'est-ce qui l'a rendu possible, elle ? Donc, qu'est-ce qui se passait dans sa cité, dans cette région du monde grec, pour que ça soit possible ? Et puis, est-ce que ça nous dit des autres femmes, des manières de vivre en Grèce ancienne ? Aussi bien dans les dynasties, ok, mais dans les démocraties aussi. Il y a des femmes en fonction d'autorité. Pas reine, pas chef de guerre, mais justement, dans les sanctuaires, des femmes qui ont autorité sur les magistrats de la cité, qui peuvent leur dire, quittez ce sanctuaire, ce n'est pas de place, ou vous ne respectez pas la règle, c'est moi qui ai autorité pour diriger le sacrifice, pas vous. On n'est pas non plus dans une vision... c'est intéressant aussi d'aller voir du côté d'Athènes, justement.
On doit tout le récit des exploits de la reine Artémise à l'historien Hérodote. Que sait-on de lui ? Comment ces récits nous sont-ils parvenus ?
Alors, ces récits, on sait qu'ils ont été d'abord déclamés à l'oral dans des auditions publiques et dans des concours. Alors, du coup, on peut se demander comment ils sont parvenus, c'est juste, mais il l'écrit, j'écris. Donc, on sait aussi qu'il écrivait par ailleurs, à la fois donc une production orale et en même temps une écriture sur papyrus. C'est le sort des papyrus à Athènes, dans cette région égéenne, c'est pas l'Égypte, on les a pas conservés. Mais ils ont été recopiés à Alexandrie dans les grandes bibliothèques, qui ont brûlé, effectivement. Mais
donc c'est miraculeux d'avoir
brûlé. On a comme ça des papyrus qui datent du 1er siècle, du 3e siècle, qui sont conservés, donc on a gardé la trace. Et puis surtout, après, on a les manuscrits 10e siècle, etc., qui sont recopiés jusqu'à l'imprimerie au 16e siècle.
Mais comment vous avez fait pour démêler le vrai du faux ? Parce que pour cette émission, j'ai relu tout Plutarque, comme je prépare toujours les émissions de manière assez précise, et Plutarque, il émet des doutes quant à la véracité de l'histoire racontée par Hérodote.
Alors, Plutarque, il émet des doutes sur l'anecdote, sur la ruse d'Artémise à Salamine, la manière dont elle a agi, dont elle a coulé le vaisseau allié pour échapper en fait à la mort. Mais il émet pas de doutes sur l'existence d'Artémise. Mais néanmoins, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant cette scène sur laquelle on peut rien dire de plus que ce que dit Hérodote, c'est plutôt ce que Hérodote est capable de dire sur cette femme à Salamine, ce que ses auditeurs ont envie d'entendre, sont prêts à entendre, c'est ça qui est intéressant.
Oui, ça en dit plus de l'époque, oui.
Je le disais, c'est pendant la bataille de Salamine, en 480, donc avant notre ère, qu'Artémise s'illustre. Quelle est l'importance de cette bataille dans le contexte des guerres médiques qui opposent les Grecs et les Perses ?
C'est une bataille qui est absolument décisive pour Athènes, en fait. Plus que pour les Grecs en général, pour Athènes, parce que c'est le moment où Athènes, elle prend le lead sur l'ensemble des Grecs qui sont coalisés contre Xerxès, contre l'Empire perse qui les menace, qui vient conquérir la Grèce, faut quand même le dire. Et du coup, Athènes a été la cité qui a sauvé les Grecs de la conquête des Perses. Et du coup, à partir de là, Athènes est devenue la cité dominante de l'ensemble du bassin Égéen et donc de toutes les autres cités qui se trouvaient sur les rivages de l'Égée et donc en Asie mineure, en Turquie actuelle, Halicarnasse en particulier. Et donc à l'époque où Hérodote écrit et où les auditeurs entendent cette histoire, Athènes est la cité un peu tyrannique, hein, la cité qui exploite les alliés. Parce qu'elle a eu cette position grâce à Salamine. Et donc, c'est assez intéressant de voir qu'il va mettre un peu de grain de sable en disant, regardez, cette cité qui nous domine, qui nous a libérés, ben, en fait, il y a une petite dynaste d'Halicarnasse, la cité sujette, qui, quand même, l'a défiée et puis elle a berné aussi les Athéniens à ce moment-là.
À quel moment, justement, la figure d'Artémise sort de l'oubli comme ça? Elle a été, il y a quelques années, je crois, exploitée par Hollywood dans le film 300. La naissance d'un empire.
Ouais, Berk.
Ça, c'est pourri comme film, dites-nous. C'est pas crédible historiquement, c'est ça que vous voulez dire?
J'aime pas du tout le personnage d'Artémise dans ce film. Alors là, pas du tout pour moi, non. Mais mon souvenir est un petit peu ancien maintenant, parce que ça m'a vraiment pas marqué plus que ça, sauf que mon sentiment d'avoir vraiment pas du tout aimé. Alors la question c'était sur plutôt
quand est-ce qu'elle est sortie
elle a été redécouverte, un peu en même temps qu'a été redécouvert Hérodote historien intéressant pour les historiens d'aujourd'hui, c'est-à-dire en fait deuxième moitié du milieu du XXe siècle. Et à partir du moment où on s'est intéressé à Hérodote, ça c'est l'anthropologie historique, c'est-à-dire quand on a sorti de les événements, les batailles et les gouvernements, mais la culture des sociétés passées, à ce moment-là Hérodote est devenu une source intéressante. Donc déjà. Et après, ça n'a pas suffi. Après, il a fallu quand même les féministes, les femmes les historiennes qui ont voulu s'intéresser à ces parcours-là et essayer de comprendre ce qui se passait aussi pour les femmes.
Et justement, est-ce qu'il y a d'autres femmes qui ont été occultées par l'historiographie plutôt masculine d'ailleurs? Est-ce qu'il y a d'autres figures féminines antiques qui mériteraient leur place dans les livres d'histoire?
Il y a pas mal de figures qui mériteraient leur place, bien entendu. Des figures, Artémise, elle est quand même connue. Il suffit, elle est décrite par Hérodote. Par contre, ce qui est très intéressant, à mon avis, maintenant, c'est toutes les femmes dont on connaît le nom, des petites choses, mais pas grand-chose, et qui mériteraient une enquête des femmes plus, pas anonymes, parce qu'on connaît leur nom, mais qui forment, en fait, la société de base. Mmh. Et on a à peu près 50 millions de femmes grecques qui sont connues. Donc, alors après, qu'est-ce qu'elles ont fait? Est-ce qu'on a suffisamment d'éléments sur chacune? Non, mais en tout cas, une analyse un peu quantitative sur le type d'activité dans lesquelles elles intervenaient, etc. Ça, c'est vraiment intéressant, c'est un chantier à faire.
Une question vraiment bête, mais est-ce qu'on retrouve encore aujourd'hui, en 2022, des documents, et par exemple des textes d'Hérodote dont on n'a pas connaissance aujourd'hui? Est-ce qu'on peut en retrouver dans les mois qui viennent? C'est des choses possibles ou c'est fini?
On a tous les documents. Il prépare ses vacances en Grèce.
Vous pouvez aller en Égypte, peut-être trouver un papyrus. On a trouvé des papyrus de Sapho encore récemment,
dans les années 2000. Absolument.
Et puis après, surtout, il y a l'archéologie. Oui. Alors, l'archéologie, c'est extraordinaire. Hein. On trouve des inscriptions avec des informations sur d'autres femmes, d'autres hommes. Et ça, on en trouve toujours.
Merci beaucoup, Violaine Sébillot-Cuchet. Je rappelle que votre livre Artémise, une femme capitaine de vaisseau en Grèce antique, est disponible aux éditions Fayard.
Merci beaucoup.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui n'ont pas toujours bonne presse. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et de presse, aujourd'hui, il est question, Clémentine, puisque vous nous racontez une pionnière devenue patronne de presse, Françoise Gourgi, qu'on connaît sous le nom de Françoise Giroux, surtout.
Oui, elle a changé de nom, elle a pris un pseudonyme de presse, en somme. C'était une idée de l'un de ses amis, André Gillois, un écrivain qui avait lui aussi un pseudo, son vrai nom, c'était Maurice Diamant-Berger, alias André Gillois. Il travaillait à la fois au cinéma et en radio, et c'est lui qui a suggéré à France Gourgi d'inverser les syllabes de son nom pour en faire son pseudonyme. Voilà comment elle devient Françoise Giroux. Et elle avait fini par adopter définitivement et légalement ce nom en 1964. C'est devenu son nom d'état civil. Elle avait alors 48 ans. Au-delà de la seule astuce de l'anagramme, prendre comme pseudonyme, autant dire comme étendard, son patronyme inversé, c'était peut-être aussi une façon détournée de rendre hommage à son père, Sally Saligourgie. Saligourgie était issue d'une très ancienne famille de juifs ottomans. Un père, écrira-t-elle dans sa biographie Histoire d'une femme libre, qui s'était écrié à sa naissance « Quel malheur, c'est une fille oh. !» Et selon France Gourgie, eh ben, pour cette raison même, parce qu'elle était une fille, son père ne l'avait jamais vraiment aimée. Mais en tout cas, sans l'avoir beaucoup connu, ce père, elle s'est montrée sa digne héritière, puisque lui-même, Saligourgie, était écrivain, journaliste et fondateur à Paris du journal La Turquie Nouvelle. Il avait fui la Turquie pour la Suisse, et c'est là qu'est né le 21 septembre 1916 France Gourgie, puis ensuite pour Paris. Et pourquoi avait-il dû fuir la Turquie? Parce qu'il avait refusé de mettre l'agence de presse qu'il avait créée, la première en Turquie, au service des Allemands. 11 ans plus tard, en 1927, après 2 ans d'hospitalisation, Sally meurt de la syphilis. Et ça va être un événement fondateur et majeur dans l'histoire de France Gourgie, alias Françoise Giroux. C'est qu'elle vit très douloureusement ce déclassement qu'elle juge humiliant. Mais comme elle se considère désormais comme l'homme de la maison, elle ne se démonte pas. Elle quitte l'école. Elle passe à 14 ans et demi un diplôme de sténodactylo chez Remington. Elle devient l'éphémère secrétaire d'André Gide. Vous le savez, ça, elle a été vraiment quelque temps. Et puis, elle est vendeuse dans une librairie du boulevard Raspail. Elle racontait que quand elle avait travaillé dans cette librairie, elle était censée classer toute la littérature française et universelle par ordre alphabétique. Et c'est comme ça qu'elle a découvert la littérature en la lisant dans l'ordre alphabétique, par auteur, par ordre alphabétique. D'autres emplois suivront pour France, mais que ce soit sténo, dactylo, libraire, script girl, scénariste ou journaliste. Tous ces métiers, vous l'avez compris, ont un point commun. C'est l'écriture, bien sûr. Selon la formule de la journaliste Sylvie Pierre-Brossolette, qui fut sa collaboratrice, c'est une plume qui fut son arme pour la vie. Elle a été considérée, Françoise Giroux, comme la meilleure journaliste de son temps. Elle trempait sa plume dans le vitriol pour conquérir les sommets. Des sommets alors inaccessibles. De nos jours, on dirait Françoise Giroux, elle a brisé le plafond de verre. Son palmarès en témoigne. Elle a été script pour Marc Allégret et Jean Renoir, sont quand même parmi les plus grands réalisateurs français. Elle devient en 37 la première femme assistante de metteur en scène, puis scénariste. Elle a travaillé sur une bonne soixantaine de films, et c'est d'ailleurs par le cinéma qu'elle découvre son talent pour l'écriture. C'est elle qui est à l'origine de l'expression nouvelle vague pour C'est Françoise Giroux. On connaît tous cette expression, c'est Françoise Giroux. Avant-guerre, elle commence à écrire dans France Soir, puis rejoint en 43 le réseau de résistance de sa sœur Jenan, dite Douce, pour lequel elle sera, selon ses propres termes, un modeste agent de liaison. Enfin, modeste, mais elle a quand même été emprisonnée à Fresnes de mars à juin 44, donc elle avait quand même joué un rôle important. Au lendemain de la guerre, le besoin d'écrire s'exprime à nouveau, et là, elle rentre au magazine Elle avec les Lazareff. Elle devient directrice de la rédaction de Elle de 46 à 53, et par la suite, avec son amant Jean-Jacques Servan-Schreiber, alias Gigi SS, qu'il appelait la Panthère. Alors que quand elle était petite, son surnom c'était Bouchon, parce qu'elle était justement toute petite. Donc la Panthère, c'était quand même plus valorisant de la part de son amant. Et bien entre 70 et 74, elle devient la première présidente d'un groupe de presse. C'est un événement qui a fait date dans le journalisme à l'époque. Qui était aussi, peut-être pas au point de la profession d'avocat, mais qui était aussi un milieu quand même assez machiste. Et quand une seule fois dans sa vie, elle quitte provisoirement le domaine de l'écriture, c'est pour devenir secrétaire d'État, la première secrétaire d'État à la condition féminine, nommée par Valérie Giscard d'Estaing. Bon, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 2 ans, entre 1974 et 1976. Elle décrète 101 mesures pour les femmes, leur fait ouvrir certaines professions jusqu'ici réservées aux hommes. Elle milite pour la contraception, elle aura fait œuvre utile. Non seulement elle s'est élevée elle-même à des sommets inaccessibles pour les femmes, mais elle leur a tendu la main. Comment vivre en femme libre, voilà quel fut tout l'enjeu de sa vie. Comment concilier des aspirations contradictoires, être à la fois une femme de tête, une femme de pouvoir à la pointe des combats féministes, et une femme amoureuse, hyper féminine, passionnée par la mode, toujours tirée à quatre épingles. Être libre, n'être pas... Est-ce que ça n'est pas justement choisir ce qu'on veut être et l'assumer? Et alors là, vous me voyez venir avec mes gros sabots, parce que je cite souvent cette phrase que j'aime beaucoup de Françoise Giroud, à qui on demandait quelle était sa phrase préférée dans la littérature française. Vous vous souvenez, je vous l'ai raconté, les garçons, vous avez peut-être oublié, c'était l'année dernière. Donc on lui demandait quelle était sa phrase préférée dans la littérature française, et elle a choisi cette phrase extraite de Madame Bovary, Gustave Flaubert, à propos d'Emma, écrit « Elle souhaitait à la fois mourir et habiter Paris ». Eh bien, c'était peut-être là une des contradictions, et une des contradictions majeures pour les femmes, c'est à la fois de vouloir mourir et habiter Paris, c'est-à-dire d'être une femme de tête, une patronne de presse, et en même temps à quatre épingles dans son tailleur Chanel. C'était Françoise Giroud.
Merci Clémentine d'avoir fait revivre pour nous cette sacrée bonne femme.
Restons tous ensemble, les amis, pour le quiz.
Historiquement vôtre.
Silence en studio. Le moment du quiz est arrivé. Je sais, Stéphane, que parfois vous avez des rêves de retraite anticipée, l'envie de tout quitter pour vivre d'amour et d'eau fraîche à tirons gardés d'ailleurs. Mais vous savez déjà comment vous aimeriez finir vos jours?
Au milieu des tournois et des chants de ménestrels, dans la pure tradition chevaleresque.
Oh, merveilleux. Hélas, avant ça, la vie vous réserve encore quelques épreuves parmi elles, et pas des moindres, le quiz. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Pour ce quiz spécial gente féminine, j'aimerais commencer par évoquer un homme, Yves Montand. Si Yves Montand a choisi Yves Montand comme pseudo, c'est un hommage direct à la plus importante des femmes le concernant, c'est-à-dire sa maman. Vrai ou faux?
Il s'appelait Yves Olivier, et je crois pas que ce soit...
Pour un demi-point, je vous donne la réponse.
Tractation entre les candidats.
Je crois pas que ce soit pour sa maman.
Vous ne croyez pas?
Si, si, c'est pour sa maman, Stéphane.
Tant pis.
Yves Monta. C'est quand elle l'appelait dans la rue. Yves Monta, ça donnait Yves Montand.
Vous avez...
Il jouait dans la rue, elle était à la fenêtre.
Je parle pas
Ivo
italiano,
Monta.
Non, Yves parlons Monta. Italiano.
Voilà.
Comment, qu'est-ce que vous avez dit? Et Pericoloso, Sport Jesse.
Non, parlamo italiano.
Oui.
Ivo Montand, voilà. Donc voilà comment Yves Olivier a choisi son pseudo.
Vous avez pas voulu
c'est non
vous
seulement...
Vous n'avez pas voulu me donner un demi-point, voilà ce qui se passe.
J'assume, au moins j'ai appris quelque chose, je suis ravi.
Et là, il y a quand même une bonne réponse de la part de Clémentine, même si la question n'était pas pour vous, ça pourra avoir une conséquence.
Parce que vous prévoyez qu'elle se plante sur tout le reste.
Non, on ne sait pas. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Pour la suite de ce quiz consacré aux femmes, j'aimerais maintenant évoquer un homme. Jean-Paul Sartre, lui et ses amis surnommaient Simone de Beauvoir Castor, parce que sa coupe de cheveux la faisait ressembler un petit peu au fameux rongeur. Vrai ou faux?
Non, c'était pas pour ça. Ça, je l'ai su, mais pourquoi est-ce qu'il l'appelait le Castor? Non, c'était pas pour sa coupe de cheveux, non, je ne crois pas.
C'était pas capillaire?
Non.
Vous avez...
Bonne réponse. Beauvoir, le nom ressemblait en anglais à Beaver.
Beaver, la castor. La bièvre, et le castor. Oui.
Simone en a joué car elle a écrit que les castors comme elle vont en bande et ont l'esprit constructeur. Question numéro 3, Stéphane, il est temps de se ressaisir.
Non, laissez tomber.
Quelle épreuve des Jeux Olympiques est ou a été totalement mixte? C'est-à-dire que les hommes et les femmes concourent tous ensemble dans la même catégorie. L'équitation, le tir à l'arc ou le skateboard?
À l'équitation, ils sont... Attends, l'équitation, le tir à l'arc, le skateboard est une discipline olympique, ça m'a échappé.
Le curling est une discipline olympique, Stéphane.
Je crois que c'est l'équitation, puisque je vois qu'il y a des compétitions hommes-femmes.
Vous êtes sûr, ça,
Stéphane? Non, je ne suis pas sûr, mais je suis sûr de rien.
Le tir à l'arc, non, plutôt, non.
Je n'ai plus sûr de rien, aujourd'hui, vous répondez.
L'équitation, ça me plairait bien.
Vous avez...
Mais attention, Clémentine, vous avez essayé de distraire.
Oh, je n'ai pas essayé, je le pensais sincèrement. Moi, il me semble qu'en équitation, j'ai plutôt l'impression de voir ou que des hommes ou que des femmes. Donc, les épreuves sont toutes mixtes.
Ou que des hommes ou que des femmes, mais ils parcourent en même temps. Enfin, l'un après l'autre. Mais ça, un homme, une femme, un homme, une femme.
Parce que j'ai vu, par exemple.
Tous sur le même cheval.
Atina Onassis avec Christina d'Espagne qui était en même temps que des hommes.
C'est l'image du Gotha.
Excusez-moi, c'est l'image que j'avais en tête. Voilà.
L'équitation, c'est une bonne réponse. Dans les années 50, les Jeux olympiques en équitation étaient réservés aux hommes et aux militaires, puis les militaires ont été remplacés par les femmes. Tout fout le camp. Question numéro 4 pour vous, Clémentine.
Ouais.
Il n'y a jamais eu, dans l'histoire de la conquête spatiale, une seule femme ayant volé seule dans l'espace. Attention, c'est bien important. Ayant volé seule dans l'espace. Vrai ou faux?
Voler seule, parce que Tcherichkova, elle a bien volé seule, Tcheika, la mouette, puisqu'elle a succédé à Gagarine. Elle était seule dans l'espace. Elle a fait 48 tours.
Comment vous l'appelez?
Valentina Tereshkova.
Vous avez gagné.
Très belle réponse. En plus, elle m'a donné le nom.
Non, elle a gagné.
Même si elle l'a prononcé un peu mal, puisqu'on parle évidemment de Valentina Tereshkova.
Oui,
en juin 1963, elle est la première femme à aller dans l'espace, et elle est à ce jour la seule femme à avoir effectué un vol individuel. Elle avait 26 ans. Elle en a aujourd'hui 84.
Non, vous avez gagné le quiz.
Et non, Stéphane ne l'a pas gagné, car elle a tenté de vous influencer.
Ah, voilà.
Et elle est justement pénalisée.
Et vous savez qu'il y a un groupe sur Facebook, il y a des gens qui s'appellent le groupe pour pour la défense des intérêts
clémentines.
Ils sont indignés.
Oui, c'est vrai. Voilà. Mais il y a deux groupes qui existent. Il y a ceux qui estiment que je vous fais gagner aussi. Donc il y a les soutiens de Stéphane. Vous avez tous les deux beaucoup de fans, c'est ça qui compte. Question numéro 5. Homme-femme, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui de vraies différences? La Suisse a visiblement répondu que non. Puisque depuis le 1er janvier 2022, il est possible de changer de sexe, du moins administrativement, en moyennant un court entretien avec l'administration et un chèque de 75 francs suisses. Cette possibilité a entraîné une situation étonnante. Laquelle? Je vous donne trois propositions. Je vais les lire lentement puisque j'ai pris l'accent suisse. Un homme est devenu une femme pour s'inscrire au championnat de Suisse de ski de fond. Un homme est devenu une femme pour partir plus tôt à la retraite. Ou un homme qui s'appelait Éolien a changé de sexe juste pour contrarier Stéphane Bern.
Un
homme est devenu une femme pour s'inscrire au championnat de Suisse de ski de fond.
Oui.
Ça devait vraiment avoir une grande importance à ses yeux. Alors, championnat de Suisse de ski de fond. Mais non, c'est une victoire de Clémentine, bien sûr.
Je suis content, voilà.
Vous avez fait exprès de perdre?
Oui.
Oh là là, c'est beau.
Et oui, pour partir plutôt à la retraite, hein. En Suisse, la retraite est à 65 ans pour les hommes, mais 64 ans pour les femmes. Un habitant de la ville de Lucerne, un petit malin, donc profitez de ce vide juridique.
Qu'est-ce que c'est drôle.
Le législateur suisse est en train de surveiller d'éventuels autres abus, car en Suisse, le service militaire n'est obligatoire que pour les hommes.
Ça ouvre des perspectives juridiques intéressantes.
Non, moi je vais me faire inscrire ce Mathilde Noël, peut-être comme ça je pourrais avoir la nationalité suisse sans faire le service militaire.
Et prendre votre retraite plus tôt.
Ah, il serait temps.
Victoire de Clémentine à la régulière.
Bien méritée.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on réunit trois femmes exceptionnelles qui tenaient la barre.
D'être sûr que le paquebot de la Croisière s'amuse avait une barre, j'ai un doute, Stéphane. Je crois que dans les années 70, les gros paquebots étaient déjà passés à la dérive électronique avec des flaps. Hein. Il n'y avait pas de barre à proprement parler, plutôt un joystick qui agissait
Trim.
Sur les...
pour dévider. Mathieu.
Oui.
On s'en fout.
Ah oui.
C'est une expression, nos dames du jour tenaient la barre au sens propre comme au figuré. Après la reine Artémis qui a tenu celle de son embarcation en pleine mer, dans la Grèce antique, je vous raconte Jeanne Chauvin, la première femme avocate à plaider à la barre de l'histoire de France, une femme qui a défendu les droits de nombreux autres, vous verrez. Et de votre côté, Mathieu, vous nous brosserez le portrait, en 99% vrai, d'une femme qui tient la barre pour de bon.
Oui, la reine des gymnastes, l'américaine Simone Biles. Vous qui avez déjà du mal à faire la roulade avant en EPS, vous risquez d'en prendre plein les yeux.
Oui, mais eux sont très agiles, nos chroniqueurs, évidemment. David Castel-Lopez qui nous raconte les origines de la roue.
Oui,
on passe de la barre à la roue.
Oui, exactement.
Là, vous allez apprendre beaucoup de choses aujourd'hui, oui. Stéphane, je crois, sur votre chronique.
Oui. La roue, c'est-à-dire...
Qui a eu l'idée de faire la roue la première fois.
Exactement, oui. Et c'est très ancien, c'est moins ancien qu'on le croit.
Ah bon?
Ça date pas des années 70. Hein. Non, pas la roue en gymnastique.
Bon, ça remonte quand même à la Chine, au moins quelques millénaires avant Jésus-Christ.
Peut-être.
Peut-être, il fait planer le suspense.
Et puis, on connaissait la mer de paille, on connaissait le vin jaune, mais le vin de paille, non.
Ouais.
Et ça, on va en parler avec Olivier Pouls.
Oui, c'est une production qui reste très confidentielle en France. Il y a très très peu de vignobles dans lesquels on produit ce nectar absolu qui est le vin de paille. Mais qu'est-ce que c'est? Je vous rassure, c'est pas fait avec de la paille. Hein.
Mais pourquoi on appelle ça le vin de
paille? Vous le saurez tout à l'heure, cher ami.
C'est la couleur de paille.
Non, c'est pas la couleur.
Mais
non, Stéphane, restez avec nous, vous allez apprendre plein de choses.
C'est l'odeur.
vous avez des vins qui sentent un peu la paille, c'est pas désagréable l'odeur de paille.
Ça, c'est les vins naturels, ça.
Ah ben non.
Ceux qui pétillent un peu, là.
Ceux-là, ils sentent la pomme.
Ils sentent la paille et parfois même le purin. On peut le dire. Vous me le dites en antenne, Olivier.
On peut le dire.
Ça va bien de soutenir les vins naturels. Bon, on jouera à la lutte finale en toute fin d'émission pour déterminer qui d'entre nous est le moins nul en histoire. Il y aura peut-être des surprises, mais pour l'heure, découvrons notre deuxième personnage du jour.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Elle avait le droit, elle l'a pris. Mais ça lui a pris du temps. Stéphane Bern nous raconte la pionnière du barreau, maître Jeanne Chauvin.
L'ambiance est électrique au palais de justice de Paris en ce 24 novembre 1897. La première chambre de la cour d'appel est prise d'assaut par une foule bruyante et chahutante. Au milieu de la cacophonie, une femme s'avance, quitte sa pèlerine de fourrure et son chapeau. Très dignement, dans sa robe toute simple de soie noire, elle s'assoit sur le banc des avocats plaidants. Jeanne Chauvin a 35 ans et elle vient demander son admission à prêter le serment d'avocat. Légalement, rien ne l'en empêche. Et pourtant. Jeanne Chauvin est née en 1862 dans une famille bourgeoise du Loiret. Son père est notaire. Elle est une élève brillante et l'une des rares femmes de sa génération à obtenir le baccalauréat. En réalité, elle en obtient même deux, en lettres et en sciences. Elle poursuit sa formation par une licence en droit, une licence en philosophie et ajoute une dernière ligne à ce CV déjà bien garni, un doctorat en droit, en 1892, l'année de ses 30 ans. Déjà, ce jour de juillet où elle soutient sa thèse, elle doit supporter la horde d'étudiants échauffés, tous des hommes, qui empêchent la séance de se tenir. Une séance qui sera repoussée de plusieurs jours. La candidate est finalement reçue à l'unanimité. Sa thèse s'intitule fort à propos « Des professions accessibles aux femmes en droit romain et en droit français ». L'étudiante y défend l'idée que la Bible et le catholicisme ont accentué l'inégalité juridique entre les hommes et les femmes par rapport à ce qu'elle était dans l'Antiquité. Jeanne Chauvin y déploie sa vision féministe évoquant « Quand la femme se manifestera à côté et indépendamment de la mère et de l'épouse, la personne humaine, l'individu membre de la cité apte à rendre les mêmes services sociaux que l'homme ». Ses idées, ses idéaux même, Jeanne Chauvin les diffuse aussi dans les journaux. À la fin des années 1880, elle écrit des articles dans la Revue de France dans lesquels elle prévient « Les femmes sont les égales des hommes, par le cœur et par le sentiment, par la pensée et par la raison. Dans la civilisation moderne, la femme ne peut plus n'être rien, alors que l'homme serait tout. » Philosophiquement et rationnellement, l'idée de l'égalité se conçoit et s'impose dans tous les domaines. Et pour tenter de faire bouger les choses, Jeanne va trouver des hommes politiques sensibles à sa cause. En 1893, Léon Bourgeois, député radical, la soutient dans son projet de devenir professeur. Jeanne Chauvin est ainsi la première à pouvoir enseigner le droit dans un lycée de jeunes filles. Mais elle a d'autres ambitions. Elle veut exercer la profession d'avocate. À l'époque, il suffit d'une licence en droit pour prêter serment. Jeanne Chauvin est donc plus que qualifiée puisqu'elle est docteur. Mais lorsqu'elle se présente devant le jury en cet automne 1897, c'est donc par un puissant vacarme qu'elle est accueillie. Une femme avocate ? Vous n'y pensez pas ! Pour les conservateurs, toutes les excuses sont bonnes pour refuser au sexe faible le droit d'exercer depuis, je cite, « le manque de force physique » jusqu'aux tentatives de séduction sans aucun doute opérées par ces femmes sur les magistrats, en passant par la destruction absolue de la famille que leur présence à la barre engendrerait. Les femmes n'auraient pas l'autorité nécessaire, ni même les capacités vocales pour pratiquer ce métier d'éloquence, une vertu virile par excellence. Jeanne a pourtant le droit de son côté. Rien n'indique dans les textes qu'une femme ne puisse exercer la fonction. Mais le procureur général lui rétorque « De tout temps, à toutes époques, on a reconnu que la femme ne devait pas sortir du cercle de la famille. » Le 19e siècle, vous l'avez compris, n'est hélas pas vraiment celui des droits des femmes. Après la Révolution, dont on leur attribue tous les excès, elles sont reléguées à la sphère domestique, tandis que l'espace public devient celui des hommes. S'exprimer publiquement ne doit pas faire partie de leurs prérogatives. Pour consolider son avis, le procureur s'appuie sur une subtilité juridique. La tradition veut que les avocats suppléent parfois, en cas de besoin, un juge. Or, les femmes ne peuvent être magistrates. Après délibération, on refuse donc à la candidate l'accès au barreau. Mais l'affaire fait du bruit et déclenche le débat. Jeanne Chauvin dépose une proposition de loi pour que les femmes aient officiellement accès au barreau. Refusée. Au Parlement, le socialiste Roger Viviani s'empare du sujet et défend l'idée d'un changement dans la loi. Il obtient finalement gain de cause après de longs débats à l'Assemblée et au Sénat. Le texte est promulgué le 1er décembre 1900. Le 4 décembre, une première femme, Olga Petit, prête serment dès la première audience solennelle, poussée par son mari pour qu'elle soit à jamais la première femme avocate. Quelques jours plus tard, le 19, c'est au tour de Jeanne Chauvin. Et si elle n'est pas la toute première à être admise au barreau, elle est bien à 38 ans, la première femme en France à plaider, puisque Mademoiselle Petit n'a jamais exercé. Le jour J, L'affaire ne passe pas inaperçue. À l'époque, les avocats portent encore une toque. Un confrère l'observe et note « Elle avait très bien ramassé ses cheveux, aussi sa toque tenait-elle très bien ?» Le monde judiciaire peut donc constater soulagé que les cheveux longs ne sont pas un problème insurmontable dans l'exercice de la fonction d'avocate. Le premier dossier sur lequel travaille Jeanne dès le mois de janvier 1901 est celui d'un accident ferroviaire. « Aimable début », note le Figaro. Dans la presse, plus que le fond des affaires, c'est la tenue, la chevelure, la robe et les bijoux de l'avocate qui sont commentés. L'année suivante, en 1902, Jeanne défend une femme accusée de contrefaçon de corset. Avant les plaidoiries, l'audience assiste à un essayage sur mannequin. « Chacun put dire que j'étais bien à ma place », résume Jeanne avec ironie, laissant imaginer l'ampleur des railleries subies par ces pionnières du droit. Jeanne, atteinte de la variole, s'éteint une vingtaine d'années plus tard, en septembre 1926, alors que les femmes sont de plus en plus nombreuses sur les bancs du palais de justice. Jeanne Chauvin leur a ouvert la voie et permis de donner de la voix. Toute sa vie, elle s'est battue pour les droits des femmes. Et si depuis 1907, une loi permet enfin aux femmes mariées de disposer librement de leur salaire, c'est aussi grâce à l'engagement de Jeanne Chauvin qui s'est âprement battue pour cette nouvelle avancée. Et ça, tout le monde, aujourd'hui, doit le savoir.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Jeanne Chauvin, nous avons le plaisir, Stéphane, d'accueillir une romancière qui en fait son héroïne. Bonjour Michel Dassas.
Bonjour.
Bonjour Michel Dassas, vous faites revivre la figure de Jeanne Chauvin dans un roman « Femme de robe » paru aux éditions Marivol. Comment vous définiriez cette pionnière de la cause féministe dont le nom est encore trop peu connu aujourd'hui ?
Oui, trop peu connue. Et en effet, c'était une pionnière, le mot pionnière est tout à fait adapté à celle qui a ouvert la voie du barreau aux femmes, qui a tracé le chemin, qui a lutté contre vents et marées pour faire changer la loi. Alors moi, je la vois comme une battante, une femme courageuse, déterminée, convaincue du bien fondé de sa cause et de son succès, mais également très discrète et respectueuse des institutions. J'en veux pour exemple, quand en 1897, elle est déboutée, elle déclare qu'elle va s'adresser au législateur en qui elle a une confiance absolue.
Dans votre livre, on trouve en annexe une sélection d'articles d'époque qui commentent le combat de Jeanne Chauvin. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les journalistes n'y vont pas de main morte. Alors prenons un article paru en septembre 1897 dans Le Figaro, dans lequel un certain Claveau écrit « Nous avons eu, il y a 15 siècles, l'invasion des barbares. Nous avons aujourd'hui l'invasion des femmes, avec des Attila en corset et des Alaric en jupon. L'affaire de Madame Chauvin n'en est qu'un minuscule épisode, mais les nuages annoncent les grandes tempêtes. » Dans cette société de la fin du 19e, de quoi on a peur face à des femmes qui expriment de plus en plus leur volonté d'investir l'espace public ? Quelles critiques sont adressées véritablement à Jeanne Chauvin ?
D'abord, il y a les avocats. Il y a des avocats qui ont peur d'une concurrence déloyale. Parce qu'ils estiment que les femmes vont user de leur charme pour gagner des procès, battements de cils, etc. Mais d'une façon plus générale, les hommes voient d'un mauvais œil les femmes accéder à des professions qui leur étaient jusqu'alors exclusivement réservées. Parce que en se hissant à leur niveau, les femmes vont démystifier leurs fonctions et échapper à leur domination. Donc cela représente un danger.
Enfin, et sortir de la famille.
Et tout à fait.
C'est ça.
Oui,
qui va s'occuper des enfants ? C'est ce qu'on pensait au 19e siècle.
Et puis d'abord, au départ, on pensait même que cérébration et fécondation étaient incompatibles. C'est ce qu'on lui dit quand elle soutient sa thèse, tout au départ.
Les principales sources dont on dispose aujourd'hui pour relater la vie de Jeanne Chauvin sont des articles parus dans la presse, qui à l'époque, c'est vrai, marchaient bien, s'étaient tirés à des millions d'exemplaires. Son combat a finalement été surtout relaté par des journalistes hommes.
Oui, c'est sûr, il y avait à l'époque une grande majorité de journalistes hommes qui ne se privaient pas de la critiquer. Alors justement, dans Le Figaro, Albert Bataille s'interroge. Mais Mademoiselle Chauvin est-elle seulement capable de réussir une bonne blanquette ? C'était vraiment ce qui était important. Mais, il y a aussi des femmes qui lui envoient des piques. Telle la comtesse Jeanne André dans la Revue Mondaine, qui déclare à son propos « Plus de cœur, plus de sexe, un rabat et des lunettes. Plus de passion, du calcul. Plus d'amour, le code. »
Il n'y a pas un seul homme, il n'y a pas un seul journaliste qui la défend et qui se moque des hommes en disant « Une femme peut très bien plaider, certainement, allons-y. »
Si, parce que justement, en annexe, j'ai mis pas mal d'extraits qui prouvent qu'il y a quand même des hommes qui prenaient sa défense et puis des hommes politiques. Et puis, il ne faut pas oublier que son frère Émile, qui était député, avait beaucoup d'amis dans la sphère politique. Et tous ces gens-là ont pris petit à petit fait des causes pour cette cause.
Mais c'est vrai que c'est un basculement d'époque. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir que tout d'un coup, les femmes viennent empêcher les hommes de jouer entre eux.
Oui, de tourner en rond. Oui. Mais elle fait ça de façon quand même très discrète. Elle est convaincue de sa cause. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui vont l'aider, comme par exemple Louis Franck, qui a été l'avocat de Marie Poplin, qui fut la première femme en Belgique à tenter de devenir avocate. Bon, elle a échoué, mais Louis Franck sera aux côtés de Jeanne et la deuxième fois sera la bonne.
Mais Jeanne Chauvin s'est battue corps et âme pour investir les tribunaux et plus globalement l'espace public. Mais on ne sait rien de sa sphère privée. Qu'en est-il de sa vie personnelle ? Vous parlez de discrétion, mais...
Est-ce qu'elle savait faire cette blanquette, oui ou non ?
C'est ça qu'on veut savoir.
Oh, mais peut-être, peut-être. Parce que...
C'est peut-être là où, justement, l'histoire se tait et donc la fiction vous aide.
Alors, peut-être parce que elle ne s'est jamais mariée parce qu'elle a épousé sa cause, son travail. Et puis, au moment où elle prête serment, comme vous l'avez dit, elle a déjà 35 ans. 35 ans, à l'époque, c'est déjà une vieille fille, puisqu'on coiffe Sainte-Catherine à 25 ans. Donc, elle va vraiment travailler toute sa vie, enseigner, et puis se consacrer aussi au conseil. Moi, j'ai rien trouvé dans les journaux sur sa vie privée. Par contre, j'ai trouvé, en faisant des recherches, sur la vie de son frère. Ça, oui. Et également, j'ai vu ses passions artistiques, puisqu'elle a fait de la peinture à l'huile, elle exposait, et puis de la lithographie. Elle faisait partie de l'association des lithographes.
Est-ce qu'on peut dire qu'elle était féministe, peut-être un tout petit peu avant l'heure, ou est-ce que...
Alors, elle était...
C'était quoi ses chevaux de bataille, en dehors du fait qu'elle s'est battue pour accéder à la profession d'avocat ?
Oui, alors, elle était féministe dans le sens qu'elle voulait vraiment, comme vous l'avez dit, l'équité entre les sexes au niveau du travail. Mais elle n'a pas fait que ça. Effectivement, elle voulait former surtout des nouvelles recrues, de futures avocates. Et elle s'est consacrée à l'enseignement. Elle n'était pas certaines femmes, comme une virago tapageuse, comme le dira Jules Bois. Effectivement, elle n'est pas du tout ce genre de féministe. Elle est simplement convaincue qu'il y a un problème d'équité, et elle trouve que les femmes, il n'y a aucune raison que les femmes qui ont les capacités de travailler comme un homme, d'exercer une profession à égalité avec les hommes, pourquoi elles ne seraient pas capables de le faire ?
Là où l'histoire fait défaut, la fiction prend le relais en littérature, puisque vous lui avez imaginé dans votre roman un destin amoureux et familial, mais c'est aussi le cas, dans une fiction télévisée dans Paris Police 1900. On écoute un extrait.
C'est bizarre quand même que vous interdisez le seul métier où on force les hommes à porter des robes.
Vous faites rire vos collègues avec ça ? Vous n'êtes pas un peu jeune pour enquêter sur un meurtre ?
Si. C'est la première fois que je... Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai commis une erreur grave. Mortelle, disons que...
Vous essayez de vous racheter.
Pas trop le père du gamin serait déjà pas mal, vous croyez pas ?
C'est donc un extrait de la fiction Paris Police 1900, diffusé l'an dernier sur Canal+, et qui a fait de Jeanne Chauvin l'un des personnages centraux de l'intrigue. Est-ce que déjà vous avez regardé la série ? Est-ce que vous êtes contente que des productions grand public s'emparent enfin de cette figure ?
Je vais dire que je suis très contente que son nom soit mis en lumière. Mais néanmoins, l'héroïne telle qu'elle est présentée dans la série me semble très éloignée de la vraie Jeanne Chauvin, qui était une femme, comme je vous l'ai dit, plutôt réservée. Et c'est pour ça que j'ai parlé de Jules Bois dans Le Figaro tout à l'heure, et qui écrivait donc justement qu'elle n'avait rien des viragos tapageuses. Et il met « C'est une timide, une laborieuse, restée selon ce type charmant de la jeune fille française, dont l'esprit aime les voiles de la modestie et du silence ». Donc vous voyez que d'après moi, ça ne correspond pas vraiment à l'image de Jeanne Chauvin enfourchant un vélo pour traverser Paris et se lançant dans des aventures policières. Bon, sinon, effectivement, l'avantage de cette série grand public, c'est qu'elle va faire connaître Jeanne Chauvin et que des gens vont s'intéresser à cette femme extraordinaire, hors du commun.
La mettre en avant, comme vous le faites brillamment dans votre roman, la préface est signée par Marie-Aimée Perron, ancienne bâtonnière du barreau de Paris. Est-ce qu'aujourd'hui, au sein de la profession des avocates, Jeanne Chauvin reste la figure tutélaire, celle à laquelle les femmes se réfèrent ?
Je pense de plus en plus. Parce que pendant un certain nombre d'années, elle a été peut-être oubliée. Et récemment, elle a été mise à l'honneur dans deux facultés. Celle de Paris, où depuis 2017, la bibliothèque de Paris-Descartes porte son nom. Également en 2019, l'atrium d'Orléans a été baptisé Jeanne Chauvin. Et enfin, au musée du Barreau, on peut admirer son portrait. Donc vous voyez, ça, ce sont des preuves que Jeanne Chauvin joue un rôle important et sans compter des travaux d'étudiants récents qui prouvent qu'un regain d'intérêt pour cette femme. Mmh.
Voilà. Très bien, mais merci beaucoup Michel Dassas. Je rappelle, vous faites revivre la vraie Jeanne Chauvin dans un livre « Femme de robe » disponible aux éditions Marivol.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, on évoque ces dames qui tiennent la barre. Après Artémise et Jeanne Chauvin, vous nous brossez, Mathieu, le portrait de celle qui est considérée comme la plus grande gymnaste de tous les temps. Simone, comment on dit
attendez,
Biles?
On va voir comment on dit.
Simone Biles.
Bon, Simone Biles.
On a regardé sur Internet quand même pour vérifier, on n'était pas
Simone
très sûr.
Simone Biles.
Moi, j'ai dit Simone Biles. Je me suis dit, elle est américaine, c'est bizarre, Simone Biles. Bon, je ne vous cache pas mon impréhension cet après-midi à l'idée de vous parler gymnastique. La perspective de parler poudre, poutre et anneau devant quelqu'un à l'esprit aussi mal tourné que Stéphane Bern, capable pour mémoire de faire des salaces à l'évocation d'une simple chronique sur le toboggan.
David Castello-Lopez qui remonte aux origines d'une invention qui fait notre bonheur. Oui. Dans notre vie quotidienne.
Et surtout le bonheur des enfants et le mien quand j'étais petit, qui est le toboggan. Voilà. Je vous raconterai l'histoire à la fois de la chose et du mot.
Vous comprenez mon inquiétude. J'essaierai donc d'être le plus factuel possible en gardant toujours à l'esprit, Stéphane, que malgré ses corps taillés à la serpe, ses muscles avantageusement moulés dans des justes corps à paillettes, la gymnastique est un sport. Et pour situer très rapidement Simone Biles, je dirais que, vous voyez Picasso, Stéphane, eh bien Simone est à la gymnastique ce que Picasso est à l'art moderne.
Moi je l'ai connu, il m'a fait un dessin, je crois. Je peux vous le dire.
Ben, contrairement non, à vous, non, qui n'êtes pas un Picasso près, visiblement, Simone
je n'ai
est née...
pas connu Picasso, il ne m'a pas fait de dessin.
Simone, alors c'est en tout cas ce qu'on dira au fisc, Simone est née dans le dénuement le plus total. Nous y viendrons, elle a su se hisser à la seule force de ses quadriceps sur les cimes du sport mondial. Une trajectoire sportive qui n'est pas sans rappeler celle de David, parti de rien et qui a fini avant-dernier des championnats de France amateurs de waterpolo devant Limoges. Simone est une athlète si époustouflante que même Simone elle-même n'en revient pas de ses propres performances. Parfois, je me demande comment je fais. J'aimerais pouvoir m'extraire de mon corps pour me voir de mes propres yeux. Oui, c'est une vraie citation de Simone, à côté de qui Alain Delon semble soudain humble. Il faut dire qu'elle a quelques raisons de se trouver super, Simone. Elle est la gymnaste la plus décorée de tous les temps. 1m42 de talent absolu, une suprématie indiscutable. Sur ses justes corps, une tête de chèvre en strass. Clin d'œil au mot GOAT. Chèvre en anglais. GOAT, soit l'acronyme de Greatest of All Time, la meilleure de tous les temps. Soutien indéfectible du mouvement Black Lives Matter, elle précise vouloir, je cite, « être beaucoup plus que ça. Je suis unique, intelligent, talentueuse, motivée et passionnée. Je me suis promis que mon histoire serait bien plus grande que ça. » Bah pourtant, c'est déjà pas mal, cocotte. Comme je vous le disais, à 24 ans, Simone avait déjà tout gagné plusieurs fois. Elle avait même déjà donné son nom à quatre figures qu'elle a elle-même inventées. Deux au sol, une à la poutre et une au saut, que vous connaissez peut-être.
C'était la technique dite du saumon volant.
Bon, vous connaissez pas, visiblement. Sur sa lancée créative, Simone espérait donner son nom à une cinquième figure au saut de cheval lors des Jeux de Tokyo. Mais hélas, vous le verrez, il y aura un petit couac. Je finis juste le tour d'horizon de la fame en vous précisant que Simone a près de 7 millions d'abonnés sur Instagram et qu'elle est la première sportive à avoir son propre emoji sur Twitter. Attention, sa date de naissance peut provoquer de légers picotements. Simone est de 1997. Et oui, David, l'année où vous traîniez en baggy en écoutant cette chanson, en vous prenant pour un caïd. Simone était un tout petit bébé né à Columbus, dans l'Ohio, et son début de vie est aussi triste que le tube de Puff Daddy. Elle est placée très jeune en famille d'accueil avec ses trois frères et sœurs. Sa mère, droguée et alcoolique, enchaîne les allers-retours en prison. Simone raconte « Je n'ai jamais pu compter sur ma mère biologique. Je me souviens que j'avais toujours faim, toujours peur. Mes grands-parents m'ont sauvé. » Car oui, un jour, les services sociaux lui disent, et en plus avec la voix de David Castello-Lopez,
« Tu ne pourras plus jamais être auprès de ta maman. »
C'est donc ses grands-parents qui l'adoptent et c'est mamie qui lui fait découvrir la gymnastique. Simone a 6 ans, c'est le coup de foudre, son corps est fait pour ça. Elle est très très vite détectée par celle qui deviendra son entraîneur, mais aussi sa deuxième maman, Amy Bowman, qui lui dit qu'en travaillant dur, elle peut devenir une grande gymnaste. Simone veut y croire, mais elle dit manquer de référents. À l'époque, il y a assez peu de gymnastes noirs sur le devant de la scène. En 2013, alors qu'elle n'a que 16 ans, elle devient championne du monde pour la première fois, puis réitère en 2014, 2015, 2018 et 2019, quintuple championne du monde de gym. Oui, Stéphane, 5 fois plus que nous, c'est fou la vie. Elle est également sextuple championne des États-Unis. Elle bat tous les records, notamment aux Jeux Olympiques. En 2016, au JO de Rio, elle marque l'histoire et devient quadruple championne olympique. Ça doit être un sacré bordel sur sa cheminée. Toujours plus loin, plus fort, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. Le seul endroit où elle ne finit pas sur le podium, c'est Danse avec les Stars, émission à laquelle elle participe, mais finit seulement quatrième. Oh, la place du con, Simone. Ben alors, on se relâche? Allez, hop! Simone se ressaisit rapidement en décrochant 6 médailles au championnat du monde de Doha. Et le plus dingue, c'est qu'elle les remporte avec un calcul rénal. Quelqu'un ici a déjà eu un calcul rénal, David, certainement?
Oui,
ben,
oui, je connaissais. Bien sûr.
Alors, vous imaginez, vous êtes lancé sur la poutre avec un calcul rénal, voilà, 6 médailles
mal.
Derrière. Voilà, Simone l'a fait. Quel est donc son secret? C'est quoi son truc pour être si performante?
Baiser.
Non, c'est pas. Non, très peu. Assez peu. Enfin, j'ai pas enquêté de ce côté-là. Non, le travail, l'acharnement et la pizza. Après chaque compétition, remportée ou perdue, Simone commande et se dévore une pizza pepperoni cheesy crust pour s'auto-féliciter. Son talent d'Achille, elle le dit elle-même, la poutre. J'ai une relation attirance-répulsion avec la poutre. Mmh. Non, ce n'est pas sale, c'est technique. Mais visiblement, comme la technique vous passe au-dessus, j'irai droit au but en répondant à la question qui vous hante depuis des minutes. Pourquoi n'a-t-elle pas inventé cette fichue cinquième figure en 2021 comme prévu? Eh bien, parce qu'au JO de Tokyo, sa prestation déçoit. Elle, la première. Simone n'est plus que l'ombre d'elle-même. Que s'est-il passé à ce passager? Hélas, non. Stéphane, car on découvre que Simone, the GOAT, est victime de twisties, un phénomène extrêmement rare qui ferait perdre aux gymnastes leur sens de leur rotation lorsqu'ils sont en l'air. En perte totale de repères, Simone réussit tout de même à repartir des JO avec une médaille de bronze au cou, ce qui, quand on y réfléchit, est déjà dingue. Depuis, elle a eu le temps d'analyser et de nous expliquer. Admettons que jusqu'à 30 ans, vous voyez parfaitement, et un matin, vous vous réveillez, vous ne voyez plus rien. Mais les gens vous disent de continuer à faire votre travail comme si vous aviez encore la vue. Vous seriez perdu, n'est-ce pas? Oh oui, Simone, moi je serais complètement perdu. Alors, même si c'est un déchirement pour elle, Simone s'y résout, elle déclare forfait pour la suite. Ne nous inquiétons pas trop pour elle, elle est dotée d'un moral à toute épreuve, qui lui a permis d'ailleurs de surmonter en 2018 une période très difficile, où elle a témoigné contre l'ex-médecin de l'équipe féminine américaine de gym, Larry Nassar, condamné à la prison à vie pour des agressions sexuelles commises pendant 2 décennies sur plus de 250 gymnastes. Une histoire horrible, puisque vous l'avez compris, Simone fait partie des victimes. Elle déclarera devant le tribunal, je rends responsable Larry Nassar et je rends responsable un système entier qui lui a permis de perpétrer ses abus, la Fédération américaine de gymnastique et le Comité olympique américain. Larry Nassar, qui au procès passera aux aveux en déclarant
« I'm a sex machine »
avec la voix de Stéphane Bern, qui lui vaudra 10 ans de tôle supplémentaire pour usurpation d'identité. Heureusement, après 2 années difficiles, Simone démarre 2022 le sourire aux lèvres, puisque son petit ami, le footballeur américain évoluant en NFL, Jonathan Owens, la demande en mariage à la Saint-Valentin. Quel plus beau cadeau pour la fête des amoureux, l'occasion peut-être d'avoir une pensée pour la personne qui partage la vie de Stéphane Bern et qui, à ce qu'on a compris, n'a pas eu droit à une Saint-Valentin aussi enchanteresse, même pas un cadeau d'ailleurs.
C'est Saint-Valentin.
J'ai pas fait penser à faire des cadeaux.
Mais j'ai pas de cadeau.
Il y a eu un petit cadeau quand même.
J'ai pas eu le temps, je suis dans le perche.
Mais tu es bien assistante, tu peux faire un cadeau.
Parmi tous les cadeaux que tu reçois, il y avait un peu que tu peux
Un petit cadeau recyclé parmi les cadeaux que les fans vous envoient. Bref, Simone, elle a eu plus de sens. Son mec l'a demandé en mariage, Stéphane. Il y en a qui sont mieux lotis que la personne qui partage votre vie. L'or a longtemps été à son cou, il est désormais à son doigt. Cette phrase est tellement bien trouvée que je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que vous avez tout compris. Stéphane, c'est quoi le GOAT? Ok, bon, vous réécouterez en podcast.
C'est la meilleure de tous les temps.
Greatest of all time.
Bravo, vous êtes le meilleur de tous les temps.
Thank you.
Merci Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour, ces dames qui tenaient la barre.
Oui, pour remettre le cap sur les rivages plus familiers de notre quotidien. Et notre quotidien, c'est l'alcool. Surtout pour Olivier Pouls, qui nous parle aujourd'hui du vin de paille. Mais qu'est-ce donc?
Mais c'est un vin très rare. Alors, c'est pas mon quotidien.
Une fois par an.
Oui, c'est pas donné.
Une fois par an.
C'est aujourd'hui, ça tombe bien.
C'est toujours avec nous. D'abord, David Castello-Lopez nous dévoile les origines d'un objet du quotidien, la roue.
Oui. La roue, on se dit franchement. Franchement, c'est tellement simple comme principe que ça doit être un des premiers trucs du monde à avoir été inventé après l'eau chaude et le gros bout de l'œuf. Mais non. Non. Pas du tout. Il y a plein de choses qui paraissent moins évidentes que la roue, mais qui ont été inventées avant. Comme par exemple, la flûte. Et l'une des raisons que certains chercheurs avancent pour expliquer l'invention tardive de la roue, c'est qu'elle n'a pas d'équivalent dans la nature. Je veux dire, un bout de bois un peu creux quand il y a du vent, ça fait une sorte de proto-flûte, vous voyez. Une fourche, ça ressemble beaucoup à plein de bouts de bois qu'on peut trouver comme ça dans la forêt. Mais la roue, non, ça devait sortir 100% de la tête de l'Homo sapiens. Et puis quand j'étais petit, mon père, il m'avait dit un autre truc de dingue, il m'avait dit, les Mayas, ils avaient fabriqué de petits jouets pour enfants sur lesquels il y avait des roues, mais ils n'avaient pas eu l'idée de faire des objets plus grands avec des roues pour transporter des trucs. Alors pour préparer cette chronique, j'ai vérifié cette information, et c'est vrai. Les Mayas avaient des jouets avec des roues.
Des petites voitures.
Des petites voitures, exactement.
Enfin, c'était de là inventer la voiture.
Exactement, mais pas de vraies voitures.
Ils ont disparu, ces Mayas.
Ouais. Voilà. Et donc, ça rend l'histoire de la roue encore plus mystérieuse. Bon, il y a un précurseur à la roue quand même, hein, c'est le rondin. Hein, si vous voulez pousser, oui. Si vous poussez un bloc de pierre sur le sol directement, ça frotte terriblement et c'est super dur. Si vous mettez des rondins en dessous, ça frotte moins. Et donc, il y a besoin de moins d'efforts pour pousser. Ça, il y a plein de civilisations qui l'ont utilisé, comme... les gens de l'île de Pâques, par exemple, pour leur grande statue avec les têtes cheloues, là. Quelque part entre 6000 et 4000 avant Jésus-Christ, il y a un type ou une zouze en Mésopotamie qui a fabriqué une roue pour faire de la poterie. Donc on n'est pas tout à fait encore dans le sujet. Mais ce monsieur ou cette dame, il a quand même compris une chose fondamentale, c'est que le centre d'un disque qui tourne est immobile. Mmh. Ce qui est quand même un principe fondamental de la roue. Là, on se dit encore une fois, mais mec, si t'as compris ça, vas-y, fais un chariot. Tu sais, c'est bon. Mais il y a deux trucs qui rendent ça beaucoup plus difficile qu'on l'imagine. Le premier, c'est que il faut que la roue soit en bois, sinon la roue est trop lourde et ça marche pas bien. Alors on se dit, bah t'as qu'à couper un arbre comme un saucisson, ça fait des roues. Sauf que si tu fais ça, oui. La roue s'écroule sur elle-même sur le poids du chariot, parce que le fil du bois ne supporte pas le poids. Et les premières roues, donc, c'est déjà des merveilles de charpenterie, parce qu'elles combinaient des planches verticales et des planches horizontales pour que la roue soit suffisamment solide et qu'elle puisse tenir la longueur. Et l'autre, c'est que une roue, ça sert absolument à rien sans un essieu. Et faire un essieu, c'est très dur, surtout, vous savez, à l'interface entre l'essieu et la roue. Parce que si la roue est trop serrée sur l'essieu, elle tourne pas. Si elle est trop lâche, elle tremblote et elle finit par tomber. Donc c'était très très dur d'arriver à cet équilibre. Enfin, il y a pas mal, d'après pas mal d'historiens spécialistes de la roue, il est très difficile que toutes ces choses elles aient été inventées progressivement, parce qu'elles sont toutes interconnectées. Et donc, il y a des historiens qui pensent que c'est une seule personne qui a inventé la roue, l'essieu et le chariot. Le premier chariot complet retrouvé, il date d'environ 3500 avant Jésus-Christ, et il vient d'une civilisation qui s'appelait la civilisation Yamna, et qui vivait dans ce qui est aujourd'hui l'Europe de l'Est, à peu près l'Ukraine d'aujourd'hui. Vous voyez. Et visiblement, ce chariot, ça a été une invention, ce qu'on pourrait dire une invention virale, parce que en l'espace de 100 ans, on l'a retrouvé partout, de l'Irak à l'Allemagne, dans tous les sens, alors même qu'à l'époque, se déplacer, c'était très très dur. Et puis ça a eu des conséquences de dingue, parce que le chariot à roues, ça a permis d'alléger énormément le travail au champ, parce que ça permettait de prendre les cultures beaucoup plus facilement, et donc ça a permis à des groupes beaucoup plus petits de s'aventurer sur des nouveaux terrains pour leur culture, et ça a permis donc à des populations de conquérir des nouveaux territoires. Sans compter quand même que quelques années plus tard, ces roues, on les a mis sur des voitures allemandes qui filent à 160 sur des routes normandes, donc merci vraiment à cet anonyme de l'âge de bronze qui a eu l'idée.
Mais moi, je connais un petit artisan qui peut vraiment vous mettre la roue bien, et elle va pas tomber.
Hein. Elle va pas tomber.
Il fait ça bien, il fait ça bien.
Mais du coup, on sait qu'on a retrouvé la première...
La première roue, on l'a trouvée
donc en Ukraine.
Il n'y avait pas de pneus encore, hein, il faut bien le préciser, Stéphane.
Mais, pourquoi vous pensiez à la Chine tout à l'heure?
C'est pas moi qui pensais à la Chine. Moi, je pense que David n'a pas enquêté du côté chinois. À mon avis, en Chine, c'était...
Il y avait des trucs en Chine.
Vous n'avez rien trouvé sur la Chine?
J'ai trouvé des trucs sur la Chine, mais en tout cas, je parlais du plus ancien.
Et le plus ancien, c'est 3500.
C'est le plus ancien chariot complet avec une roue qui marche et dont on sait qu'il a existé, c'est 3500.
Mais les Chinois l'ont copié aussitôt après.
Au mieux. C'est ça le problème.
Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Boire ou conduire, il faut choisir. Olivier Pouls a fait son choix aujourd'hui. On parle du vin de paille.
Oui, ben vous savez, on le confond souvent avec le vin jaune dont on a parlé il y a quelque temps ici même. Et lorsque j'ai dit, tiens, on va parler du vin jaune, quelqu'un ici a dit, ah oui, le vin de paille. Ben en fait, ça n'a strictement rien à voir.
Mais qui est le
jeune
qui a dit ça?
Il faudrait replonger dans les archives, mais je peux vous garantir que l'un de vous, et je pense que c'est un certain Mathieu M.
Alors ça m'étonnerait.
Avait peut-être
confondre le vin de paille et le vin jaune.
Alors vous allez nous expliquer la différence peut-être.
Bien sûr, il y en a un qui a le goût de médicament. et l'autre qui a encore plus le goût de médicament.
Alors, pas du tout. Alors, donc, le vin jaune, pour le redire très rapidement, c'est un vin qui est élevé en milieu oxydatif et donc qui a effectivement ces notes très particulières de curry, de noix, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs. Alors que le principe du vin de paille est totalement différent. C'est un vin dans lequel on va chercher à exprimer le côté le plus licoreux possible. Et ça, c'est une technique qui remonte...
C'est du sauterne.
Et alors, c'est pas vraiment du sauterne, parce que justement, la technique pour obtenir la sucrosité élevée dans le vin n'est pas la même. Dans le sauterne, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse traîner des grappes de raisin tardivement sur les pieds, en attendant qu'un champignon qu'on appelle le Botrytis cinerea s'installe et commence à dessécher ces grappes qui vont se concentrer en sucre. La technique du vin de paille, elle est très différente. Elle est probablement née en Grèce durant l'Antiquité, figurez-vous, sur l'île de Thasos, où on récoltait le raisin et ensuite on le laissait sécher au soleil sur des clés de paille. D'où le nom de vin de paille. Et l'idée, c'était que, en laissant sécher le raisin au soleil, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se déshydrate, il perd de l'eau et donc sa concentration en sucre augmente. Et donc, quand on le vinifie, on obtient un vin qui est beaucoup plus sucré. C'était un vin qui était très apprécié. On aimait justement ce côté extrêmement sucré. Alors, cette technique, on l'a pratiquement pas fait évoluer. On appelle ça le passerillage, mais on l'a introduite dans un certain nombre de vignobles français. C'est le cas, par exemple, on parlait tout à l'heure du Jura, dans le Jura, où on fait du vin jaune, mais aussi du vin de paille. Ce sont deux techniques qui n'ont strictement rien à voir et qui donnent des résultats très différents.
Il y en a un qui est sec, l'autre qui est liquoreux.
Exactement. Alors, le vin de paille, d'ailleurs, il faut savoir que quand on prend 100 kilos de raisin, on obtient seulement 20 litres de jus. Donc, c'est un ratio qui est extrêmement
petit. Donc, ça le rend
petit,
cher.
Ça le rend très cher, évidemment, mais avec un taux de sucre qui est très élevé, puisqu'on peut avoir jusqu'à 300 grammes de sucre par litre de vin, ce qui est absolument colossal. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on les trouve essentiellement en petites bouteilles de 50 centilitres, parce que ça fait un peu monter votre...
Mais est-ce que c'est pas trop sucré ?
Alors, c'est toujours une question d'équilibre. C'est-à-dire que c'est sucré, évidemment, mais comme on récolte le raisin relativement tôt, on préserve beaucoup d'acidité. Et c'est ça, l'idée, c'est d'avoir un rapport entre ce qu'on appelle la sucrosité, le sucre, et l'acidité pour avoir de la fraîcheur en finale. C'est un vin qui va développer souvent des arômes d'agrumes confits, de mandarines, avec une petite touche d'amertume en finale qui justement le rend très digeste. Alors en France, on le trouve sur la colline de l'Ermitage, par exemple. Il y a un tout petit peu de vin de paille qui est fait en Ermitage avec de la Roussanne et de la Marsanne. On retrouve ce qu'on appelle le vin paillé de Beaumont du Ventoux, dans le Ventoux, évidemment, avec du Grenache ou de la Clairette. Et puis en Corrèze, figurez-vous, qu'il y a une tradition de faire là-bas aussi un vin de paille que le roi Dagobert avait dégusté et apprécié en 622, figurez-vous, ramené par le bon Saint-Éloi. Et là, c'est fait avec du Cabernet Sauvignon, du Merlot et du Chardonnay. Et on l'appelle le miel des muses.
C'est beau comme nom.
Ça fait rêver, votre histoire. Et on ne peut pas déguster pour voir un petit peu si ce que vous dites est vrai.
Alors, je vais m'occuper évidemment de vous faire déguster du vin de paille
directement
très rapidement. Non, mais le problème, c'est que je fais attention à votre ligne. Et comme Stéphane me rappelle régulièrement qu'il fait attention à son poids, je me suis dit, il y a beaucoup trop de sucre dans ce vin de paille.
Je déteste les vins sucrés.
Seule la dose est poison. Une petite goutte ne nous ferait pas de mal. Merci, Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Pour terminer, il y a des chances, vous finissiez aussi sur la paille, à la fois sans verre de vin, mais en même temps ruiné intellectuellement par la lutte finale.
Europe 1, historiquement vôtre.
Une question pour chacun, vous connaissez le principe, ça a à voir avec l'histoire, mais un rapport parfois un peu lointain. Les avis divergent, David Castello-Lopez, pour l'entrée de Kevin Costner dans l'histoire du cinéma. Mais si Kevin n'en est pas très fier, c'est à 19 ans qu'il fait ses débuts dans un film érotique. Quel était le titre de ce film érotique ? Malibu Hot Summer, Hot Sexy Beach, Hot Lady Cocktail.
Je dirais Malibu Hot Summer. Les autres, ça sent un Français qui a inventé des titres.
On sent quand même une grosse culture.
Kevin a essayé de racheter les droits du film pour en limiter la diffusion, mais il n'a jamais réussi. Alors, Mathieu, ça c'est une question qui est faite sur mesure pour vous. Histoire de la musique. Le groupe Led Zeppelin avait un jet privé, rien de très original, mais il y avait quand même dans l'engin une cheminée, une mini-piscine avec toboggan ou un mini-bowling.
Alors, il n'y avait pas de cheminée, sinon là, je pense que...
Au choix.
Ça aurait été un peu compliqué.
Et une mini-piscine avec toboggan.
Une mini piscine avec toboggan, ça serait la plus grande extravagance, parce que ça prendrait quand même beaucoup de place. Est-ce qu'ils avaient un 747 avec la bosse, ce qui pouvait mettre le toboggan en bas et la piscine en dessous. Et Stéphane adore le toboggan. Toboggan avec la Zeppelin dans l'avion. Non, moi je pense que c'est le bowling, une mini piste de bowling. Bah, en même temps, c'est facile à faire, hein, parce que. C'était la piscine.
C'était la cheminée.
Non.
Ah non, ça c'est pas possible.
Ils avaient une cheminée.
Ah, c'est pas possible, Stéphane.
Ils avaient une cheminée
dans un avion.
Ben si, c'était une cheminée fonctionnelle en plus. Et le jet...
C'est tellement pas rock'n'roll en plus pour une cheminée. Oui. Il est en charentaise pour la cheminée.
Vous allez tomber de la chaise. Le jet, avant d'appartenir au groupe Led Zeppelin, était celui des Stones. Il a été vendu ensuite à un groupe de rock appelé les Frères Allman. Quand ces derniers sont arrivés dans l'avion, sur la table en verre, il y avait de la poudre de cocaïne qui formait les lettres Welcome.
Ah oh. Ça, c'est une attention que mon propriétaire n'a pas eue, l'ancien propriétaire de mon appartement quand j'ai acheté. Il aurait pu me mettre un peu de cocaïne. C'est une belle histoire.
Que
c'est interdit, bien sûr.
C'est mal.
De la farine. En tout cas, c'est une belle histoire, Stéphane. Je suis content d'avoir perdu.
Oui.
Une cheminée dans un.
Olivier, c'est pour vous. Pour qu'une journée soit décrétée journée mondiale, il faut qu'un État ou une institution dépose un projet à l'Assemblée Générale de l'ONU et que cela soit approuvé. L'Assemblée a décidé que la journée mondiale de la procrastination sera toujours repoussée au lendemain. Du coup, il n'y en a pas. Vrai ou faux ?
C'est un côté absurde qui, évidemment, est très très drôle.
La
journée mondiale de la procrastination est repoussée au lendemain. Ouais. Bah, non, ça peut pas. C'est faux.
Absolument. Vous avez raison, c'est le 25 mars. C'est le 25 mars, tous les ans, fête de la procrastination. Alors, il n'y a plus que deux candidats en lice, ouais. Olivier Pouls et David Cassel-Lopez. La question du départage. Histoire du cinéma. On a tous aimé Rain Man en 1988 avec l'interprétation magistrale de Dustin Hoffman qui campe un autiste savant. Quand Tom Cruise fait tomber une boîte d'allumettes en un clin d'œil, son frère arrive à savoir combien il y en a. Ben, il y en avait combien justement d'allumettes ?
Je vois très très bien cette scène.
Oui. Mais comptez les allumettes si vous revoyez la scène.
Je dirais 111.
95.
C'est David qui gagne, il y en avait 246. D'ailleurs, c'était pas des allumettes, c'était des cure-dents.
Ah bah, quoi, vous étiez trompé dans votre question?
Non,
ou c'est
pour
un double piège.
C'est pour l'image.
Comment ça pour l'image?
Bah pour l'image, je pense qu'ils ont joué avec des cure-dents dans la boîte d'allumettes.
Ah d'accord. D'accord. Très bien, mais c'est une superbe victoire de David qui remonte et qui commence à talonner dangereusement Olivier Pouls pendant que je suis toujours dans les tréfonds du classement au grand dam de mon fils. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain, Stéphane. Vous connaissez déjà le programme.
Oui. Demain, on réunit les personnages qui ont shooté les plus grandes stars. Le photographe Nadar, qui a immortalisé toutes les grandes figures des lettres et des arts. Mm-hmm. Puis l'autre star du genre, Colette Harcourt et ses mythiques portraits noir et blanc.
Oui, je crois même qu'elle vous a photographié.
Studio, elle était déjà morte. Hein. Je suis pas si vieux que ça, hein, Mathieu.
Autant pour moi, Stéphane, j'ai fait la gaffe. Et lui aussi a shooté une grande star avec qui il a été pris en photo aussi. Shooté, mais au sens propre, puisque Mark Chapman a tué John Lennon, dont il était fan. Alors faites attention à vos fans, Stéphane, on se retrouve demain. Enfin, j'espère.
À demain, Mathieu. À demain, les amis. À demain, chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.